Vous écoutez France Musique.
Changer de disque, Émilie Munira.
Bonjour à tous, première partie d'émission donc consacrée au chef Malcolm Sargent avec un coffret icône 18-10 qui nous permet de le redécouvrir. Et en seconde partie, un organiste tendance David Bowie et des leaders signés Julian Prégardian. À 17h30, c'est la minute de Madame Disco avec Anne Voisin, les archives de la discothèque de Radio France, un opéra oublié de Vincent Dindy au programme. Hommage donc à Malcolm Sargent, chef britannique qui a vécu entre 1895 et 1967, qui a surtout fait carrière dans son pays, en Grande-Bretagne. Et Warner nous propose donc de redécouvrir l'art de ce chef qui avait un répertoire absolument gigantesque. Mais comme beaucoup de ses confrères britanniques, il dirigeait énormément la musique de son pays. C'est ce qu'on entend beaucoup dans ce coffret. Extrait d'Hiawatha de Samuel Coleridge Taylor. C'est ici Malcolm Sargent avec le Royal Choral Society et le Philharmonia Orchestra. À 19 ans, c'est le plus jeune Anglais à détenir un doctorat de musique et il voulait devenir pianiste. Finalement, il y a des occasions qui vont se présenter à lui de prendre la baguette et il va se lancer dans une carrière de chef. Début au Proms en 21 et puis 4 ans plus tard, il est invité donc à diriger la série annuelle des représentations de Hiawatha de Coleridge Taylor. Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, pour les Anglais, c'est très important puisque chaque soir on jouait à guichet fermé cette œuvre devant un public de 7000 spectateurs. C'était donc le succès assuré. Ce qui est amusant, c'est qu'il avait une autre passion, c'était de diriger des opérettes, celle de Gilbert et Sullivan, notamment au Savoy Theatre. Et il va donc devenir l'un des piliers non seulement de ce théâtre, mais aussi de l'œuvre de Gilbert et Sullivan. Il va devenir un habitué des scènes anglaises. Le public classique ne connaîtra que lui. D'ailleurs, il va fonder avec Thomas Beecham en 32 le London Philharmonic Orchestra, des postes extrêmement prestigieux. On le retrouve au Halle Orchestra, au London Philharmonic, au BBC Symphony Orchestra. Et son nom devient vite l'un des plus connus d'Angleterre. Il va exceller en plus quand il dirige les compositeurs de son propre pays. Donc il a absolument tout pour plaire, Malcolm Sargent, et il dirige même Edward Elgar. Thank you. Extrait des variations Enigma d'Edward Elgar, c'était l'orchestre Philharmonia avec Malcolm Sargent dans ce coffret Warner Classic. Il avait également la réputation d'être un des plus grands vulgarisateurs de musique classique en Grande-Bretagne. C'était un peu le Bernstein britannique. Il avait rejoint une émission qui s'appelait Brain Trust et c'était comme ça des auditeurs qui posaient des questions. C'était d'abord à la radio, puis à la télévision, à des experts. Il répondait comme ça pendant 3 ans devant 13 millions d'auditeurs. Ils ont savouré évidemment son talent de présentateur sur une grande diversité de sujets. Et son nom donc est devenu, comme je vous le disais, l'un des plus célèbres en Angleterre, notamment en 47. Et ce qui va faire également sa popularité, ce sont les célèbres proms. Et oui, quand on joue aux proms, on est connu du grand public anglais. Et lui, non seulement il joue aux proms, mais en plus il dirigeait environ la moitié de la cinquantaine des concerts de chaque saison. C'était absolument énorme. D'ailleurs, il avait du coup son mot à dire sur la programmation. Et en tant que grand spécialiste des œuvres chorales, il programmait régulièrement ses œuvres préférées, notamment le Belshazzar Feast de Walton et puis le rêve de Géronte d'Elgar encore.
Oh!
Les voix de Richard Lewis et de Marjorie Thomas pour le Dream of Gerontius, ce rêve de Géronte, signé Edward Elgar avec l'Orchestre Philharmonique de Liverpool et Malcolm Sargent, toujours ce coffret icône chez Warner Classics. Ça, c'était un enregistrement de 1954. Donc, vous voyez qu'il y a eu un beau travail de restauration qui a été fait. Et ça, c'est vrai que Warner Emmy sait très bien le faire à chaque fois qu'il nous offre ses coffrets icônes. C'est une œuvre importante pour lui que ce rêve de Géronte, parce qu'il a entendu, il avait à peu près 17 ans. C'est une œuvre qui l'a bouleversée. Il l'a dirigée la première fois en 1922. Elle va le suivre pendant à peu près toute sa carrière. Ça va être pareil pour les variations Enigma. Pendant 20 ans, ce sera donc le maître incontesté des proms. Il va cumuler 500 concerts au programme très différent. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment mettre des musiques vraiment dites classiques, Beethoven, etc. Tout le grand répertoire. Et puis, il pouvait aussi programmer une soirée pour Gilbert et Sullivan, ces opérettes qu'il aimait tant. Il mettait vraiment à profit son sens de la musique légère en donnant par exemple les danses d'Henri VII d'Edward German. Ce sont les danses d'Henri VIII, et oui, ici, celle d'Edward German, qu'on n'écoute vraiment jamais dans notre pays. C'est fou ce qu'on peut découvrir dans ce coffret icône, vraiment beaucoup de compositeurs qui ne sont pas joués. Malcolm Sargent pour ce coffret, on le retrouve, vous avez compris, beaucoup de musique anglaise. Il y a Delius, il y a Warlock, Walton, Britten, mais il avait quand même un répertoire immense. Il disait d'ailleurs qu'il pouvait tout diriger avec qui il voulait, quand il le voulait. Il avait quand même un caractère bien trempé. « Je suis un chef indépendant, je l'ai toujours été », voilà ce qu'il disait. « Tout le monde peut me demander de diriger, n'importe quel soliste peut me solliciter et n'importe quel label peut me publier. Je n'ai jamais signé de contrat nulle part et avec personne. » Un grand répertoire qui va du Messie de Handel aux opérettes de Gilbert et Sullivan. D'ailleurs, il disait que le Messie et Mikado, c'était les deux piliers de sa carrière. C'est vrai que c'est une des œuvres où il y a beaucoup de cœur et la direction chorale, c'était pour lui quelque chose d'extraordinaire. Il était vraiment connu pour ça également. En témoigne notamment un oratorio aussi de Mendelssohn. Même Thomas Beecham disait qu'il était le plus grand chef de chœur anglais, il fait chanter ses satanés choristes avec une fougue incendiaire. À découvrir tout ça donc dans ce coffret et hors musique anglaise, on trouve notamment Sibelius et Grieg.
Thank you.
Extrait la suite lyrique d'Edvard Grieg. C'est l'Orchestre Philharmonia et Michael Sergeant pour le répertoire, donc hors compositeur britannique. Dans les classiques, il y a Berlioz, des ouvertures de Wagner, le poème symphonique, des poèmes symphoniques de Mendelssohn, et puis une troisième symphonie de Beethoven.
Thank you.
Extrait de la troisième symphonie de Beethoven, c'est Malcolm Sargent avec le Royal Philharmonic Orchestra. Vous avez entendu avec cette œuvre et puis la suite lyrique, vraiment la précision de la direction de Malcolm Sargent. Ce qu'il arrive à faire avec cet orchestre, c'est très clair, très précis. Vous pouvez donc le découvrir dans ce coffret Icône 18 disques, Malcolm Sargent's The Great Recording. C'est le titre de ce coffret Icône édité par Warner. Extrait de la boutique fantasque de Rossini, Malcolm Sargent avec le Royal Philharmonic Orchestra pour ce coffret Warner Classic. 17h31 sur France Musique. Bonjour Anne Voisin.
Bonjour Émilie.
Les archives de la discothèque de Radio France et une petite rareté aujourd'hui, un compositeur qu'on connaît, mais un opéra qu'on a complètement oublié.
Oui, qui est complètement sorti du répertoire, Ferval de Vincent d'Indy. Alors Ferval avec deux A.
Ferval,
c'est le second opéra donc de Vincent d'Indy après Le Chant de la Cloche. Alors lui, il voulait absolument créer un opéra français qui s'affranchirait un peu de la suprématie wagnérienne. On est en pleine succession de Wagner là, en 1897. En fait, Vincent d'Indy, il a beaucoup de mal à trouver un livret. Il se tourne vers des légendes scandinaves qui sont très à la mode. On a le Sigurd d'Ernest Reyer ou Hulda de César Franck. Et si vous êtes sage, je vous ferai une chronique sur Hulda. D'ailleurs.
C'est sympathique ça.
Je pense à vous. Hein.
Oui, vraiment, je le vois.
Donc Vincent d'Indy va s'inspirer d'un poème lyrique d'Esaias Stegner. C'est un auteur suédois et il va le transposer en France, dans les Cévennes, sa terre natale. Hein. Ça nous ramène bien sûr à sa symphonie sur un champ montagnard. Nous sommes à la période des guerres sarrasines et les Gaulois se battent pour récupérer leur pays envahi. Ferval tombe amoureux de Guylaine, la fille du chef sarrasin. Un amour impossible, bien sûr. Et à cette époque où donc l'influence de Wagner est considérable, on a les pros, les anti. Vincent d'Indy, lui, il est plutôt un admirateur, mais il aimerait bien faire quelque chose de véritablement français. Mais en fait, dans cet opéra, on retrouve toutes les thématiques wagnériennes, la renaissance par l'amour, la rédemption du chaste et valeureux héros par la mort. Et l'opéra, en fait, à sa sortie, est immédiatement estampillé pastiche wagnérien. On l'appelle aussi le Parsifal français. Malgré une très bonne réception du public, il est créé à la Monnaie de Bruxelles, d'ailleurs. Un critique dira même « Ferval a tout du drame wagnérien, le symbolisme, la poésie obscure et les longueurs et les ennuis ».
sympa.
Pas très, non. Mais vous allez pouvoir vous en faire une opinion avec cet extrait de l'acte 2 de Ferval. Voilà le début de l'acte 2 de Ferval de Vincent d'Indy. C'est Pierre-Michel Lecomte qui dirigeait l'orchestre de la radiodiffusion française. Jean Mollien était Ferval, Pierre Germain dans le rôle d'Arfagard. Et c'est la seule version intégrale qu'on ait. Elle a été enregistrée en mars 1962.
Merci Anne Voisin, ça donne envie d'écouter.
Ou pas.
Merci Anne Voisin, on se retrouve la semaine prochaine à 17h30. Et on va écouter de l'orgue maintenant avec un organiste américain qui a tout des allures d'une pop star. Il est notamment sur sa pochette avec une crête punk, vous l'avez vu
oui,
Anne.
Oui, superbe, superbe.
C'est bizarre quand même. Hein. Oui. Il a une espèce de petit débardeur, on dirait qu'il a fait de la muscu juste avant.
Oui.
Voilà.
Il est Jones.
Et bah oui, ça on peut le dire. Et qu'y a-t-il dans son disque ? Eh bien, voilà un premier extrait. Thank you. Extrait de la sixième sonate pour orgue de Jean-Sébastien Bach par Cameron Carpenter avec ce disque « If you could read my mind », si vous pouviez lire dans mon esprit, mais peut-être qu'on le pourra bientôt. C'est un artiste né en 81 aux États-Unis, donc je vous le disais sur la pochette, il a une crête punk, un débardeur, il a l'air absolument en transe. Et c'est finalement, on dirait que c'est un disque de pop hein, quand on le reçoit, et il touche finalement presque à l'univers pop puisque Arte lui a consacré un grand portrait récemment. Il le comparait à un mélange de Freddie Mercury et de David Bowie dans des périodes glam. Ce qu'on apprenait aussi sur Arte, c'est qu'il avait eu un curieux chemin pour arriver jusqu'à l'orgue. Il n'a pas commencé dans les églises comme certains d'entre eux, c'est plutôt son père qui lui a offert un orgue à monde des années 30 et il a installé dans son entreprise un atelier où on fabriquait des fours. Et il raconte, Cameron Carpenter, qu'il a travaillé Buxtehude et Bach au milieu de gars qui travaillaient les métaux. Voilà ce qu'il confiait sur Arte. Il a compris à ce moment-là ce que voulait dire créer, ce que voulait dire faire et il a préféré s'exercer dans ce contexte bruyant plutôt que dans une église où, dit-il, il ne se passe rien. Et depuis, il arrange tout ce qui lui passe sous la main, des chansons pop jusqu'à la 5e symphonie de Mahler. Il n'aime pas, comme ça, être obligé d'avoir un instrument qu'il n'a pas choisi. C'est comme ça qu'il est Cameron Carpenter. Donc, il s'est fait construire son propre instrument pour partir en tournée et pour pouvoir jouer comme il l'entend. Sur ce disque, on trouve ses propres compositions. On trouve notamment la musique de Duruflet également, des arrangements Oblivion de Piazzolla, la quatrième sonate de Scriabine et l'ouverture Candide de Bernstein.
Thank you.
Extrait du Candide de Bernstein, l'ouverture Candide de Bernstein, qui est donc ici transcrite à l'orgue par Cameron Carpenter. C'est un disque qui s'appelle If You Could Read My Mind, et c'est vrai qu'il est assez effrayant pour certains organisateurs de concerts, puisqu'à Philadelphie, il a quand même réussi à démolir un instrument flambant neuf d'une valeur de 6,4 millions de dollars. Il est comme ça. Il joue avec son cœur, notre ami Cameron Carpenter. Si vous voulez le voir en action, il y a une vidéo donc, sur la page Facebook de Changer de Disque où vous le verrez avec ses bottes qui brillent de tous les sens et sa crête peroxydée jouer de l'or. Quand même assez talentueux et en tout cas très virtuose. On finit avec un superbe disque, celui de Julian Prégardien qui nous offre un récital de leader. Extrait des Matchen Blumen de Richard Strauss, Julian Prégardien et Christophe Schnarkertz pour l'accompagner au piano, le disque eh bien, du fils de Christophe Prégardien. Vous vous en doutez, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le remarque. Il était dans le disque de Cecilia Bartoli consacré à Agostino Stefani. L'un des derniers, il était avec le Richard Carconsort de Philippe Pierlot. Et il me semble que c'est son premier disque en solo et il va certainement s'imposer comme un grand chanteur, un grand ténor de sa génération. À la bien-aimée, c'est son titre avec bien le Lied de Beethoven qu'on connaît bien, la bien-aimée lointaine. On trouve également Strauss que vous avez entendu, Karl Maria von Weber avec les quatre tempéraments devant la perte de la bien-aimée, Hugo Wolf. Et il y a une vraie intelligence chez ce chanteur, une intelligence du texte évidemment, un timbre superbe, vous l'avez entendu, capable des plus jolies nuances dans les plus petits pianissimos. Et puis et surtout, et c'est ce qui est très important également dans ce genre de répertoire, dans l'intime, et bien c'est un magnifique conteur. Il fait vivre chaque pièce de ce disque, parfois déchirante, en tout cas toujours poignante, avec un talent remarquable. C'est édité par le label Myrios et c'est à ne pas rater.
Heilen wir
Extrait des Moriké Lieder d'Hugo Wolf, c'était la voix de Julianne Prégardien avec Christophe Schnackertz qui l'accompagne au piano. Le disque s'appelle « À la bien-aimée », ça sort sous le label Mirios Classique. Si vous voulez entendre un autre extrait de ce très beau disque, il vous suffit d'écouter l'émission de Marc Dumont mardi prochain, « Les horizons chimériques » qui sont consacrés à Weber sans l'opéra. Et il passera l'intégralité du cycle de Weber, qui est en plus un cycle qu'on n'entend pas très souvent. Donc n'hésitez pas à écoutez Les Horizons, mardi à 16h. Merci à l'équipe du jour, oh mais presque essentiellement féminine. Ariane Herbé, Annick Champagne, Claire Lagarde, Flora Sternadel, il a fallu que Victor Buton mette son grain de sel là-dedans. C'est rare quand même, autant de femmes à France Musique.